Notre Père et notre Dieu, non seulement tu es fidèle envers nous qui sommes tes enfants, mais ta parole, Seigneur, te révèle comme étant celui qui s'appelle fidèle et véritable. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour avoir été vraiment fidèle envers chacun de nous. Chacun de nous a au moins un témoignage à te partager par rapport à ta fidélité. Chacun de nous, Seigneur, a au moins quelque chose à te dire en rapport avec ta fidélité. C'est parce que tu es fidèle que ce matin, tu as permis que nous puissions nous rassembler dans ta maison et autour de toi, Seigneur, afin de recevoir de toi ce que tu as préparé pour nous. C'est parce que tu es fidèle, ô Dieu, que ce matin tu es là parmi nous. Tu nous as fait cette promesse d'être avec nous, de nous accompagner jusqu'à la fin de temps. Et dans ta fidélité envers toi-même, dans ta fidélité envers ta parole, ce matin tu es là. Tu es là pour honorer, Seigneur, ta parole. Tu es là pour nous accompagner. Merci Jésus. Apprends-nous à compter sur toi. Apprends-nous, Seigneur, à ne jamais nous décourager. Seigneur, quel que soit le contexte, quel que soit le chemin sur lequel nous nous trouvons, que nous nous attendions toujours à ta fidélité, car tôt ou tard, cette fidélité finira par se manifester. Nous bénissons ton nom pour, Seigneur, ce salut que tu nous as acquis, ô Dieu, à la croix de Golgotha, par ta mort et ta résurrection. Nous bénissons ton nom, Seigneur, de ce que dans ton amour, eh bien, non seulement tu es venu dans nos vies, mais dans ton amour et dans ta bienveillance, en venant dans notre vie, Seigneur, eh bien, tu t'es engagé à nous accompagner jour après jour, à pourvoir à tous nos besoins, à combattre pour nous, à nous maintenir dans ton triomphe, celui de la croix. Oh, merci. Merci pour tout. Nous voulons maintenant te tendre une oreille attentive, afin que tu nous parles. Seigneur, parle-nous. Fais-nous du bien par ta parole. Pose ta main sur ton serviteur, pose ta main sur ton peuple. Seigneur, et donne-nous de recevoir ta parole comme étant la véritable nourriture pour nos âmes et nos esprits. Donne-nous de recevoir, ô Dieu, tes instructions, car elles seules, Seigneur, ô Dieu, peuvent apporter la grâce dans notre corps, quel que soit son besoin. Merci Jésus. Bénis ta parole et sanctifie-la dans chacun de nous. En ton nom, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Soyons des bons bâtisseurs. Tel est donc notre thème de ce dimanche matin. Nous allons, par rapport à ce thème, lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Corinthiens 3, 9 à 17. Nous lisons. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, je posais le fondement et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu, quelle nature est l'œuvre de chacun? Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Amen. Gloire au Seigneur. Soyons des bâtisseurs, pas n'importe quel bâtisseur, mais des bons bâtisseurs. Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous donne une occasion, durant notre passage sur cette terre, alors que nous marchons avec lui, alors que nous faisons partie de son Église, il nous donne cette grâce, il nous fait cette grâce, mes amis, de pouvoir contribuer à ce que lui est en train de bâtir sur cette terre. Il nous donne cette grâce de pouvoir contribuer, mes amis, à la construction la plus merveilleuse, la plus extraordinaire qui soit, d'être actif sur le chantier le plus noble qui soit, le chantier du royaume de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a des hommes qui ont été de vrais bâtisseurs, des bâtisseurs de leur nation, des hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, qui ont laissé derrière eux des monuments, eh bien, qui parlent encore aujourd'hui en leur faveur. Quand vous allez à Rome, eh bien, vous serez, que vous le vouliez ou pas, émerveillé par le Colisée. Voyez-vous, érigé par l'empereur Vespasien, cette chef-d'œuvre extraordinaire est toujours là. L'empereur est décédé, certes, il n'a pas eu l'occasion de voir cette œuvre s'achever. C'est plus tard son fils Flavius Titus qui terminera cela. Mais il a quand même laissé quelque chose. Et aujourd'hui, eh bien, le Colisée est là. Si vous allez à Paris, eh bien, vous aurez l'occasion de voir la Tour Eiffel. Gustave Eiffel, le concepteur, l'ingénieur de ce monument extraordinaire, a laissé derrière lui quelque chose, eh bien, qui parle encore aujourd'hui et qui porte son nom, n'est-ce pas? Tout cela, ce sont des monuments qui sont appelés un jour à disparaître. Mais Dieu nous fait la grâce, mes amis, de pouvoir contribuer au chantier le plus extraordinaire qui soit, de pouvoir travailler avec lui, être ouvrier avec lui, cette grâce d'être actif sur son chantier et de marquer l'histoire de cette humanité. Car ce que nous bâtissons avec le Seigneur est appelé, mes amis, à perdurer jusque dans son éternité. Amen. Soyons des bons bâtisseurs. Dans la portion de l'Écriture que nous venons de lire, nous voyons là que l'apôtre Paul, et notamment au verset 9, l'apôtre Paul utilise la double métaphore et de la plantation et de la construction pour désigner l'Église de Dieu, cette Église que le Seigneur bâtit par son Esprit et ce, au moyen de sa parole. L'Église comparée à un champ, au champ de Dieu, champ dans lequel, eh bien, nous sommes appelés à semer. Pas n'importe comment, pas jeter n'importe quelle semence, mais la semence de la parole de Dieu qui est appelée donc un jour à germer et à produire du fruit pour la gloire de Dieu. Et la deuxième métaphore, celle qui nous intéresse ce matin, eh bien, c'est celle qui compare l'Église du Seigneur à la construction de Dieu, à l'édifice de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je le sais donc, sur cette image de l'Église comme étant l'édifice de Dieu, que j'aimerais attirer votre attention et voir ensemble comment Dieu est bon envers chacun de nous, comment nous pouvons être de bâtisseurs avec Dieu, comment nous pouvons contribuer, mes amis, à l'érection de cet édifice extraordinaire que son Église. Alléluia. Comment Dieu, dans son amour, nous fait la grâce, mes amis, d'être actifs sur son chantier. Et cela est une grâce, comme je viens de le souligner, mais c'est aussi un honneur, c'est aussi un privilège que de pouvoir, mes amis, contribuer avec tout ce que nous sommes, mais aussi avec tout ce que nous avons, tous les dons, tous les talents, les différents ministères qu'il nous a donnés, contribuer à l'édification, à la construction du Seigneur ici sur la terre des hommes. Les dons que le Seigneur nous a dotés, les différentes aptitudes que nous avons reçues de sa part, les différents ministères qu'il a répandus sur son peuple, tout cela, mes amis, n'a qu'un seul objectif ultime, à savoir contribuer à la construction de son Église, contribuer donc à la construction de son édifice que l'Église. Gloire au Seigneur. Cette église, mes amis, est appelée et est un édifice vivant, composé d'hommes et de femmes qui un jour ont entendu l'appel du Seigneur, y ont répondu favorablement, ont reçu Jésus dans leur vie, sont devenus de nouvelles créatures. Ceux-là font partie de cette église que lui est en train de bâtir. Alléluia. Depuis plus de 2000 ans, le Seigneur est à l'œuvre sur cette terre, et en particulier dans notre pays, le Congo, pour bâtir, pour poursuivre son œuvre de construction. Cette église-là n'a rien à voir avec toutes ces organisations politico-religieuses. L'église dont il est question, c'est celle qui est bâtie sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. En d'autres mots, le Seigneur nous appelle à être des bâtisseurs de l'église, à être des bâtisseurs de cet édifice pour lequel il est mort à la croix. C'est la seule préoccupation, je dirais, la préoccupation majeure du Seigneur, bâtir son église. Et il aimerait le faire, et il le fait avec les hommes qu'il a sauvés par grâce, qu'il est allé chercher dans le monde, qu'il a lavé, qu'il a purifié, qu'il a débarrassé de toutes sortes de choses, de faiblesses, et qu'il a introduit dans son église, et auquel il a donné, il a fait des dons, des talents, des ministères, pour que ces gens-là, eh bien, puissent contribuer de manière efficace à la construction de cette église. Alléluia. Gloire au Seigneur. Être bâtisseur avec Dieu et pour Dieu, voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. Gloire au Seigneur. Le temple qu'il construit est donc un édifice spirituel dans lequel nous sommes entrés, où il nous a fait entrer, depuis le jour où nous l'avons reçu, depuis le jour où nous sommes devenus son temple. Gloire à Dieu. Et depuis ce jour-là, eh bien, le Seigneur attend à ce que chacun de nous puisse contribuer à cette édification, à cette construction, que chacun de nous devienne un bâtisseur de son œuvre suprême. Alléluia. Bâtisseur du royaume de Dieu. Mais comme nous allons le voir dans ce passage, le Saint-Esprit met en évidence trois catégories de bâtisseurs. Et nous allons voir dans quelle catégorie nous devrions être. Car si le Seigneur nous fait cette grâce de travailler avec lui et pour lui, c'est tout simplement parce qu'il nous aime et parce qu'il aimerait nous faire participer à sa joie. Et un jour, nous récompenser, un jour, nous couronner. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Vous êtes la construction du Seigneur. Eh bien, nous pouvons appliquer ce verset que nous venons de lire. D'abord à la croissance spirituelle de chaque croyant en Christ, de tout celui qui est dans l'Église. Eh bien, tout celui-là est appelé à bâtir sa propre vie, à donner l'occasion au Seigneur de construire dans sa vie. Voyez-vous? Mais nous pouvons également appliquer ce même passage à l'église du Seigneur dans laquelle nous sommes tous appelés à être de bâtisseurs. Église, eh bien, à laquelle nous devons contribuer par tous les moyens pour que cette église croisse et ressemble de plus en plus à son architecte, à son concepteur, à son ingénieur. Tous appelés à bâtir. Il n'y a pas que ceux qui ont reçu le ministère tel que nous le trouvons dans la parole de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont été appelés comme apôtres, appelés comme prophètes, appelés comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes, mais aussi tous ceux qui ont été appelés comme diacres, diaconesses, comme anciens, tous ceux qui ont été appelés à assumer une quelconque responsabilité dans le corps du Christ, tous ceux qui en font partie, mes amis, sont appelés à contribuer d'une manière ou d'une autre, eh bien, à la construction de l'Église de Jésus-Christ. Car il promet de nous récompenser en ce jour-là. Il promet, mes amis, de nous rétribuer. Mais notre rétribution dépendra de la manière dont nous aurons contribué à cette, à la construction de son église, mais aussi de la nature des matériaux que nous aurons utilisés pour bâtir sa maison. Gloire au Seigneur. Avant d'aller plus loin, s'il y a une chose que nous devons connaître, que nous ne devions jamais perdre de vue, alors que nous sommes sur le chantier du Seigneur, c'est que c'est un chantier divin. Alléluia. C'est le chantier de Dieu et non pas le chantier d'un homme. Et non pas le chantier d'une religion. Voyez-vous? Et non pas le chantier d'une entreprise, quelle qu'elle soit. C'est le chantier de Dieu. Et par conséquent, eh bien, la fondation, c'est Jésus et Jésus seul. Nous ne le dirons jamais assez. Il est important que nous comprenions que Jésus est appelé à rester, à demeurer la fondation sur laquelle chacun de nous bâtit, sur laquelle, eh bien, tous ceux qui ont reçu un ministère sont appelés à bâtir. Jésus et Jésus seul. C'est le chantier de Dieu. Et sur ce chantier, mes amis, il n'y a pas d'autre fondement que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cela est important, mes amis. Pourquoi? Parce qu'on peut se retrouver en train de bâtir sa vie sur une religion, sur un fondement humain. Alors qu'on pense qu'on est en train de bâtir sur Jésus-Christ, alors qu'on pense qu'on fait partie de cet édifice vivant que l'Église, mais en réalité, on appartient à une communauté humaine, religieuse, fondée sur un individu. Voyez-vous? Qu'il soit prophète, qu'il soit apôtre, même pas sur un ange. C'est Jésus et Jésus seul qui est donc appelé à être notre fondement. Lui et son œuvre, et pas quelqu'un d'autre. Si nous perdons cela de vue, nous risquons, mes amis, de passer à côté de la bénédiction. Nous risquons un jour, d'être déçus pour l'éternité. Aucun homme n'est plus malheureux ou ne sera plus malheureux que celui qui, tout au long de son existence, aura cru qu'il fait partie de la famille de Dieu, aura cru qu'il fait partie de l'Église de Dieu, et puis arrivé de l'autre côté, le Seigneur lui dit « Je ne te connais pas ». Voilà. C'est pourquoi nous devons faire très, très attention, être toujours sûr que nous sommes encore sur la bonne voie, que Jésus est encore le fondement de notre vie. Car c'est une chose, eh bien, de commencer avec le Seigneur, mais ça n'est une autre de poursuivre avec lui. Beaucoup ont commencé, voyez-vous. Beaucoup ont reçu Jésus, ont eu comme fondement. Mais avec le temps, mes amis, eh bien, ils ont fini par tourner le dos au Seigneur et par s'attacher à une religion, mais tout en continuant à voir le nom du Seigneur dans leur bouche. C'est donc un préalable important. Jésus doit demeurer la fondation de ce chantier qui est en construction depuis plus de 2000 ans. Le Saint-Esprit est à l'œuvre à travers le monde. Il va chercher les hommes au travers de la prédication de l'Évangile, les femmes, quelle que soit leur nature. Et puis il va les amener, il va les tailler, les modeler, les vivifier et les introduire dans l'Église du Seigneur, les amener sur le chantier. Afin qu'eux aussi, à leur tour, puissent contribuer donc à la construction de ce chantier-là. Donc ça, c'est un préalable important. Jésus, la fondation. Jésus, le fondement. Alléluia. Car le chantier sur lequel nous travaillons, eh bien, c'est son chantier à lui. Donc nous devons savoir quelle est la nature de la fondation ou du fondement, mais aussi quelle doit être la nature des matériaux avec lesquels nous allons construire. Comme je le soulignais en semaine, eh bien, un des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui et qui ouvre, hélas, la porte à la louve de l'enfer, à savoir l'esprit de Jézabel, c'est que dans la plupart des cas, nous, les responsables, eh bien, nous confondons la nature de l'Église et nous nous retrouvons en train de travailler comme si l'Église était notre propre entreprise, comme si c'était notre propriété personnel ou familial. Voyez-vous? C'est comme quelqu'un, comme je l'ai dit, en effet, avoir un véhicule, c'est une très très bonne chose. Mais savoir quel type de carburant il faut mettre dans le réservoir
pour que ce véhicule roule, ça n'est une autre. Oui ou non?
Oui.
Vous pouvez avoir une très belle Jeep dont le moteur fonctionne au diesel. Vous allez vous arrêter à une station, innocemment, sincèrement. Vous prenez l'essence et vous mettez dans le moteur. Eh bien, le véhicule restera toujours véhicule. Mais le moteur, lui, ne supportera pas cela. Parce que ce n'est pas dans sa nature de fonctionner à l'essence, mais plutôt au diesel, n'est-ce pas? Donc nous devons savoir quel type de carburant devons-nous utiliser dans nos véhicules pour que nos véhicules roulent. Ça peut être le diesel, ça peut être l'essence, ou alors l'électricité, puisqu'il y a de plus en plus de véhicules qui roulent à l'électricité. Donc, il en est de même de l'Église. Lorsque nous oublions cela, que le chantier, c'est le chantier de Dieu, alléluia, que la fondation doit être une personne, non pas un ange, mais une personne divine, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, quand nous oublions cela, mes amis, eh bien nous nous dirigeons tout droit vers la destruction et la perdition. C'est donc un préalable. Nous devons, au niveau de l'Église locale, eh bien, avoir comme fondement Jésus et Jésus seul. Alléluia. Mais aussi au niveau personnel, nous devons avoir comme fondement Jésus et Jésus seul. Nous devons, au niveau du mouvement, la communauté des assemblées de Dieu, avoir comme fondement, eh bien, Jésus et Jésus seul. Car nous courons tous le risque, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau personnel, de nous retrouver en train de bâtir sur autre chose que la véritable fondation. En train de bâtir sur des structures, sur des institutions, plutôt que sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus, donc, reste le fondement de notre vie. Il reste la raison d'être de notre vie. Il est le fondement de la borne. Il reste la raison d'être de la borne. Il est le fondement du mouvement et il doit rester sa raison d'être. Alléluia. Dès lors qu'un mouvement s'écarte de cette vérité, eh bien, ce mouvement va tout droit à sa perte. Et si nous aimons notre communauté, si nous aimons notre église locale, nous devrions veiller, chacun de nous, pas seulement ceux qui sont appelés au ministère, mais chacun de nous, tous ceux qui font partie de cette grande famille, nous devrions veiller à ce que Jésus reste et demeure le fondement, le seul fondement de son Église. C'est alors que la construction, eh bien, se poursuivra pour sa plus grande gloire, mais aussi pour notre plus grand bonheur. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a deux manières de provoquer la ruine d'une construction. Deux manières. Premièrement, eh bien, en trichant sur la qualité des fondations. Ces derniers temps, depuis quelque temps, les immeubles poussent comme des champignons dans notre ville de Kinshasa. C'est une bonne chose, voyez-vous. Mais est-ce que ceux qui le construisent, les propriétaires, respectent-ils toujours les instructions, le plan que les architectes avaient conçu? L'architecte prévoit un immeuble à deux étages. Voyez? Vous, deux, trois, quatre ans plus tard, voulant avoir encore d'autres appartements à mettre à la disposition des locataires, vous ajoutez trois, quatre, cinq niveaux. Et puis un jour, tout s'écroule, oh Seigneur, quelle épreuve! Mais non. L'architecte a prévu des fondations pour un immeuble à... Voyez-vous. Mais vous, vous en ajoutez 3, 4, 5. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, mes amis. Il faut que la fondation soit faite en fonction du bâtiment à ériger dessus. Autrement, eh bien, en trichant de cette manière, tôt ou tard, cet immeuble-là s'écroulera. Donc, en trichant sur les fondations, on risque de travailler à la ruine de la construction. Ou aussi, deuxièmement, en construisant avec de mauvais matériaux. Voyez? Et on en trouve de plus en plus, hein? Ça, c'est terrible. Sur le marché ici. On a déjà eu ici à remplacer la serrure, je ne sais pas, 5 ou 6 fois. C'est des produits qu'on ramasse ça et là. Vous qui êtes dans le commerce, frères et sœurs, apportez-nous des choses de qualité. Autant encore acheter plus cher quelque chose qui va durer 10, 15, 20 ans que d'aller ramasser dans certains pays que je n'aimerais pas nommer de produits d'un dollar. Oh, c'est une bonne affaire. Vous ramassez, vous remplissez des conteneurs. Et vous amenez ça ici et vous le vendez à 10 dollars. Des choses qui ne durent pas. Ou alors, si c'est du ciment, on essaie un peu d'ajouter quelques produits. Hein? C'est pas possible. Donc, voyez-vous, mes amis, en trichant sur les fondations, ou en utilisant des matériaux qui ne sont pas appropriés, des mauvais matériaux, eh bien, vous allez travailler à la ruine de la construction. Quelle que soit la beauté architecturale de l'immeuble, tôt ou tard, eh bien, cet immeuble se croulera. Un petit séisme, un petit vent, ou alors en ajoutant 3, 4, 5 niveaux, eh bien les fondations finiront par céder. Parce que vous allez mettre de plus en plus du béton au-dessus, sur des fondations qui n'auront jamais été prévues pour cela. Donc l'Église doit être construite par Jésus-Christ, sur Jésus-Christ, en Jésus-Christ, alléluia. Que ça soit sur le plan personnel, que ça soit sur le plan communautaire, sur le plan de l'église locale. Voilà donc ce que nous devons connaître. Alors, comment bâtir? Comment bâtissons-nous? Voyez-vous? Et avec quel type de matériaux? En d'autres mots, et ceci d'ailleurs nous conduit aux 3 catégories de bâtisseurs que nous trouvons dans ce passage. L'apôtre distingue 3 types de bâtisseurs. C'est une chose d'être actif sur le chantier du Seigneur, d'être bâtisseur, de contribuer à la construction, c'en est une autre, mes amis, de savoir dans quelle catégorie de bâtisseurs nous nous trouvons. Il y a d'abord la catégorie de ceux qui bâtissent, qui construisent avec des bons matériaux, des matériaux appelés à durer et à demeurer après l'épreuve du feu. Voyez-vous? Ça, c'est la première catégorie. Je crois que le Seigneur voudrait que nous fassions partie de cette première catégorie, de ceux qui bâtissent, mes amis, avec des matériaux nobles, avec des matériaux de qualité. Et nous l'avons lu, ces matériaux sont ici, symbolisés par l'or, l'argent et les pierres précieuses. Car ces 3 types de matériaux ont cette capacité, cette faculté, de résister à l'épreuve du feu. La deuxième catégorie, ou le deuxième type de bâtisseur, eh bien, c'est la catégorie de ceux qui bâtissent avec des matériaux de qualité inférieure, avec des matériaux de qualité médiocre, des matériaux qui ne résisteront pas. La parole de Dieu est claire, ne résisteront pas à l'épreuve du feu en ce jour-là. Car c'est après l'épreuve du feu qu'alors la récompense sera donnée aux uns aux autres. Gloire à Dieu. Vous savez, l'homme n'est pas fait pour n'avoir rien. Être comme un ver de terre. Vous voyez, le ver de terre n'a rien, il n'a même pas de poils. Il n'a rien, il n'a aucun héritage, un ver de terre. Vous voyez? L'homme est fait, mes amis, pour avoir quelque chose. Nous avons des mains, mais il faut que les mains touchent, non? Oui ou non? Donc, l'homme a été, même quand le Seigneur l'a créé, l'a placé au jardin d'Éden, mais ce n'était pas un jardin où il n'y avait que du sable. Vous voyez? Donc, il y avait tout. Il y avait de quoi, mes amis, permettre à l'homme de mener une existence sereine, une existence extraordinaire, dans la présence de son Dieu. Ça serait alors terrible de se retrouver au ciel sans rien et de passer toute l'éternité sans Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais la Bible est claire. Pour ceux qui auront perdu leurs œuvres, nous allons le voir. C'est-à-dire ceux qui auront utilisé, qui auront bâti d'abord leur vie, évidemment sur la fondation Jésus, mais avec des matériaux de moindre qualité, de qualité médiocre, comme le foin, comme le chaume, mes amis, ou comme le bois, eh bien, lorsque cela passera par le feu, ces gens-là n'auront absolument rien, ils seront sauvés comme au travers du feu. En d'autres mots, vous arrivez là-bas, les uns ont des couronnes, d'autres ont toutes sortes de choses extraordinaires, des richesses incroyables. Vous retrouvez là-bas sans rien. Sans rien. Évidemment, le Seigneur est là. Sans rien. C'est terrible. Ici, bon, pendant 5 ans, vous ne pouvez rien avoir. Et puis un jour, le Seigneur vous fait la grâce. Vous avez au moins quelque chose. Vous voyez? Mais là-bas, toute l'éternité, sans rien. Sans rien. Absolument rien. Mais vous êtes sauvés parce que vous êtes au ciel. Oui. Alors, vous allez voir les gens se réjouir à cause de leur fidélité. Parce qu'ils se seront oubliés, eux, pour Jésus et pour son Église. Ceux-là auront des récompenses extraordinaires. La Bible utilise des images extraordinaires, de couronnes, etc. Mais la réalité est au-delà de tout cela. Donc, ceux qui bâtissent avec des matériaux de moindre qualité, de matériaux qui ne résisteront pas à l'épreuve du feu. Et enfin, la troisième catégorie, la plus terrible, c'est la catégorie de ceux qui en réalité ne bâtissent même pas, mais ils détruisent. Vous voyez? Ils déconstruisent. Et le Seigneur est très clair. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, eh bien Dieu le... Donc voilà les trois possibilités qui s'offrent à nous, mes amis. Être parmi les bâtisseurs qui travaillent d'arrache-pied pour leur sauveur, qui sont conscients que c'est l'Église de Jésus, qui sont prêts à aller au-delà, toujours prêts à faire le deuxième mille. Voyez-vous? Là où tout le monde fait un mille, comme Jésus l'a dit, eux font combien? 2000. C'est un des principes du royaume des cieux. Toujours aller au-delà. Voyez? Eh bien, ceux-là auront des récompenses extraordinaires. Ou alors, faire partie de ceux qui bâtissent, certes, ils sont actifs sur le chantier de Dieu, c'est vrai. Le fondement reste Jésus-Christ, très bien, mais qui bâtissent avec des matériaux de qualité moindre, des matériaux qui ne pourront pas résister à l'épreuve du feu. Ou alors, hélas, faire partie de ceux, au lieu de bâtir, mes amis, sont en train de détruire, sont en train de déconstruire ce que les vrais bâtisseurs, eh bien, ont construit. Mes amis, nous ne devons jamais oublier que la récompense qui nous attend, nous l'avons lu, la rétribution que le Seigneur réserve à tout celui qui est actif sur son chantier, eh bien, cette récompense-là dépendra de la fondation. Si Jésus est là, c'est déjà... Comment? L'essentiel, mais aussi de la nature des matériaux utilisés lorsque nous construirons, le type de matériaux. Donc, les matériaux utilisés sont très importants. Quel type de matériaux utilisons-nous? En d'autres mots, avec quoi bâtissons-nous? Eh bien, si nous voulons faire partie de la catégorie des bâtisseurs, des bons bâtisseurs, nous avons tout intérêt à utiliser la première catégorie, puisqu'on peut regrouper les matériaux en deux catégories de 3-3, trois types de matériaux par catégorie. Nous avons intérêt à construire avec des matériaux du premier type, c'est-à-dire les matériaux qui résistent à l'épreuve du feu, des matériaux qui sont indestructibles. Voyez-vous? Et quels sont ce matériau de cette première catégorie, eh bien, c'est l'or, c'est l'argent, ce sont des pierres précieuses. Alléluia. Bâtir avec ce genre de matériau, mes amis, c'est travailler avec l'espoir un jour de recevoir de la part du Seigneur une très grande récompense. C'est travailler en étant de bons bâtisseurs. Car ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons de bons, de vrais bâtisseurs. Il nous destine, mes amis, à où il destine chacun de nous à une grande récompense. Mais cela dépendra. Cela dépendra de chacun de nous. En cela, je vois que Dieu est juste. Il n'a pas prédestiné certains à bâtir avec des matériaux durables, que sont l'or, l'argent et les pierres précieuses, et puis d'autres qui l'auraient destiné à utiliser du foin. Pas du tout. Pas du tout. Le Seigneur reste juste. Tout dépendra de chacun de nous. Dieu nous donne la possibilité un jour d'être un grand, d'avoir un monument, eh bien, pour la gloire de son nom, qui sera érigé là, dans son ciel de gloire. Voyez-vous, nous n'avons pas tous l'intelligence de tous ces grands constructeurs. Voyez, tout celui, je ne sais pas qui avait fait le projet de l'échangeur. C'est une tour extraordinaire, n'est-ce pas? Nous n'avons pas tous cette intelligence-là. Nous ne sommes pas tous des architectes, tous des ingénieurs en construction, des inventeurs, des savants, voyez-vous? Mais Dieu, dans son amour, donne l'occasion à tout homme, quel que soit son niveau d'instruction, de pouvoir marquer l'histoire de l'humanité en contribuant, mes amis, à la construction de l'œuvre la plus glorieuse qui soit, à savoir l'Église de Jésus-Christ. De construire avec des matériaux durables. La deuxième catégorie, c'est donc celle de ceux qui bâtissent, qui construisent avec des matériaux de moindre qualité, que sont le bois, le chaume et le foin. Eh bien, la caractéristique de ce matériau, de cette catégorie, c'est que ce sont des matériaux, peu importe leur apparence, ces matériaux ne résistent jamais à l'épreuve du feu. Quand vous faites passer le foin par le feu, eh bien, il ne reste plus rien. Si vous mettez le bois dans le feu, il ne restera rien non plus, n'est-ce pas? Si vous jetez la paille dans le feu, eh bien, ça sera le même sort que le bois ou le foin. Eh bien, pour ceux qui bâtiront de cette manière, ils n'auront rien, absolument rien, si ce n'est que se contenter du fait d'être et de faire partie du royaume des cieux. Si nous voulons donc que nos œuvres subsistent, nous avons tout intérêt à construire avec de matériaux durables, à bâtir avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, car nous recevrons une récompense, un couronnement en ce jour-là que ces hommes et ces femmes qui, en étant actifs sur le chantier du Seigneur, eh bien, auront construit avec ce matériau-là. Des hommes et des femmes dont les œuvres, car parler des matériaux, c'est parler des œuvres que nous sommes appelés à accomplir dans nos vies et dans l'Église de Jésus-Christ, mais aussi envers le monde. Vous voyez? C'est donc la nature de ces œuvres-là qui déterminera, in fine, le type de récompense que nous aurons. Voilà pourquoi il est toujours important de se poser la question de savoir avec quel type de matériaux bâtissons-nous. Avec du bois ou avec de l'or? Avec du foin ou avec de l'argent? Avec de la paille ou avec de pierres précieuses? Voyez-vous? Alors, quand est-ce qu'une œuvre que nous accomplissons est précieuse, c'est-à-dire est une pierre précieuse aux yeux de Dieu, et quelque chose est comme de l'or, est comme de l'argent, bref, est comme un matériau précieux, qui résiste à l'épreuve du feu. Et quand est-ce qu'alors nous construisons avec du foin, avec du chaume, avec de la paille? Eh bien, nous devons savoir que ce qui fait qu'une œuvre soit précieuse, c'est d'abord la nature de cette œuvre-là, mais aussi la motivation, les motifs louables derrière l'œuvre, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le cœur de l'homme ou de la femme qui accomplit une œuvre. Amen. Pour nous, nous jugeons une œuvre telle qu'elle se présente. Lorsque quelqu'un fait un geste à votre égard, il vous donne un peu d'argent, ben vous louez le Seigneur, oui ou non? Vous dites que cet homme est généreux. Mais cet homme peut donner simplement pour se mettre en évidence, pour que l'autre croie qu'il est vraiment bon. Et qu'avec lui, il faut toujours s'attendre à quelque chose. Voyez-vous? Là, la motivation serait impure. Et une telle œuvre, mes amis, est en soi du foin. Voyez-vous? Est en soi de la paille. Parce que tu le fais pour être vu. C'est ainsi que nous avions parlé il y a quelques mois d'ici, des différentes œuvres que nous devons accomplir. Voyez-vous? Là où le Seigneur nous met en garde, il dit, si tu veux jeûner, eh bien, n'aie pas une mine de fête pour que tout le monde croie et voit que tu jeûnes. Si tu le fais pour que les gens te voient, alors tu as déjà ton foin. Mais si tu le fais pour le Seigneur, si tu donnes pour que les gens ne le sachent pas et que c'est entre toi et Dieu, mon frère et ma sœur, tu es en train de construire avec une bonne motivation. Car tu voudrais qu'en tout et pour tout, Dieu seul se glorifie et non pas l'homme. Donc voyez-vous, mes amis, une œuvre, eh bien, elle est bonne dans sa nature, c'est vrai, mais il faut que la motivation derrière soit une motivation louable, quelque chose qui contribue à la gloire de Dieu, et non pas qui cherche à mettre l'homme en évidence pour qu'on parle de l'homme. D'où nous devons veiller, mes amis, d'abord à la motivation derrière tout ce que nous faisons. Ouais. Veillez au motif qui nous anime à chaque fois que nous devons faire quelque chose. Sans quoi nous risquerions de faire des choses qui, apparemment, sont très bonnes, mais qui en réalité sont là simplement pour être comme un piédestal sur lequel nous montons afin que tout le monde nous voit et nous contemple et nous admire. Au lieu de travailler à la construction du Seigneur et pour la gloire de Dieu, combien d'entre nous sont-ils en train de se constituer une cour d'admirateurs? Voyez? Avoir de gens. C'est ainsi que les gens aujourd'hui, et ça, je les dénoncerai tant que j'aurai l'occasion, et pour moi-même, et pour les autres. Voyez-vous? Courir après la notoriété. On devrait s'arrêter, et puis voir quelle est la motivation derrière. Pourquoi je veux, tout d'un coup, devenir extra-apôtre? Pourquoi ajouter extra à l'apôtre? Oui, mais c'est une question qu'il faut se poser. Dans la vie, il faut se poser des questions. Ne soyons pas de ceux qui vivent comme ça, comme des bêtes. Il faut toujours se poser des questions. En se posant des questions, des bonnes questions, on arrivera à des bonnes réponses. Si vous ne vous posez pas les questions, mes amis, vous laissez les circonstances vous conduire. Et souvent, on dit, ah oui, mais c'est la volonté de Dieu. Non, c'est de la fainéantise. Le fait de marcher avec Dieu ne veut pas dire que nous devons suicider notre raison. Nous ne débranchons pas notre cerveau dehors, au parking, là, quand nous venons ici. Dieu veut que nous utilisions notre cerveau. Une foi qui glorifie Dieu est une foi réfléchie, pas celle du charbonnier. Pas du tout. Tu l'as, allez, c'est bien. Le pays a besoin d'œuvres sociales. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui se sont levées pour créer des centres médicaux, etc., afin de donner l'occasion aux uns aux autres de pouvoir bénéficier de certains soins. C'est une bonne chose. Mais il y en a qui le font pour l'argent. Vous construisez, vous prévoyez déjà une salle d'opération, vous n'avez même pas de groupe électrogène. Vous comptez uniquement sur la société nationale, dont on sait qu'elle passe par des moments difficiles, dont d'ailleurs nous sommes responsables en partie. Oui? Qui paye les factures? Oui. Vous ne payez pas des factures. Vous pensez que la SNEL, le Seigneur enverrait des anges pour venir réparer. Nous sommes responsables. Moi, je suis très sensible, c'est peut-être à la déformation de l'Europe. Quand je vois les lampes allumées la journée, je me dis, mais ces gens ne payent pas la facture. Parce que celui qui paye la facture, moi j'ai même un compteur prépayé. Vous voyez? Ouais. Il ne paye pas. Comment voulez-vous en plein jour? Les lumières sont tout le temps devant tous ces, comment on appelle, des petits kiosques là. Je me demande où ils vont chercher l'électricité. Moi je veille à chaque fois de couper les lumières. Hein. Même les chargeurs, mon épouse est là. Quand je passe, on a chargé, on a oublié le chargeur, je le débranche. C'est toujours la consommation. Non, on laisse. On laisse. Ah mais oh, nous avons le problème d'électricité. En partie, nous contribuons à ça. Je parlais une fois avec un agent. Je dis, mais comment expliquer? Je dis, mais pourquoi vous n'imposez pas le compteur prépayé? Oh, pasteur. Il y en a qui ne veulent même pas. C'est tout un problème. Nous devons contribuer à la construction du pays. Chacun doit y mettre du sien. Alors, pour revenir au centre de soins médicaux, vous ouvrez un centre, c'est bien, les gens viennent. Oh, demain, une salle d'opération. Mais une salle d'opération, mais vous devez prévoir un groupe électrogène, non? Et ne pas seulement compter sur le courant. Même dans des pays développés, il y a toujours de générateurs de secours. Car il peut arriver pour une raison que voilà, qu'il y ait coupure, alors qu'une personne est sur la table d'opération. Quelqu'un m'a dit, ça s'est passé quelque part. Un jeune homme de 26 ans est décédé. Comme ça, il était sur la table d'opération. Pof, le courant part. Il n'y avait pas de mazout dans le... Il est mort, 26 ans. Et la réaction, c'était la volonté de Dieu. Allez, soyons sérieux. Donc c'est la volonté de Dieu. Il aurait aveuglé la personne pour qu'elle n'aille pas acheter le mazout. Il en aurait empêché. Non, c'est de la négligence. Nous devons assumer nos responsabilités. Bref, nous devons donc veiller à nos motivations pour avancer, terminer. À la motivation derrière nos actes. Car c'est la motivation et la nature de l'acte qui déterminera, eh bien, si cette œuvre-là, eh bien, est une œuvre précieuse, une œuvre qui se présente à Dieu comme étant de l'or, de l'argent ou des biens précieux, ou alors c'est du foin, voyez-vous. Très rapidement, ceux qui bâtissent avec de bons matériaux, c'est-à-dire avec l'or, l'argent et les pierres précieuses, ce sont ceux, mes amis, qui œuvrent sur le chantier du Seigneur, avec une seule motivation, l'édification, l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais aussi la gloire et la gloire du chef de l'Église, à savoir Jésus. Alléluia. Si nous sommes animés, mes amis, de tels motifs, alors nous sommes sur la bonne voie. Si nous cherchons en tout à ce que le nom du Seigneur soit glorifié, alors, nous sommes sur la bonne voie. Car il y en a qui utilisent le nom du Seigneur pour leur ventre. Voyez? Qui utilisent le nom du Seigneur pour transformer l'œuvre de Dieu en une affaire personnelle. Voyez? Ceux qui œuvrent avec des motifs louables, ceux qui utilisent leurs dons, leurs talents pour la gloire du Seigneur, ceux-là, mes amis, sont en train de bâtir avec des matériaux solides. Et le jour du jugement, le jour de l'épreuve du feu, eh bien ces matériaux résisteront. Et ceux-là auront, mes amis, des récompenses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ceux qui ont un ministère, tel que le Seigneur l'a doté à l'Église, et qui travaillent avec des motivations pures, eux aussi contribuent au chantier, à l'avancement du chantier du Seigneur, et recevront également la récompense, car il y en a qui travaillent pour eux-mêmes. La Bible nous met en garde, ceux qui travaillent pour eux-mêmes, pour se mettre en évidence, et Dieu seul sait combien il y en a. Ils ne peuvent pas s'attendre à une récompense de la part du Seigneur. Alléluia. Il faut que nos motivations soient pures. Il faut que lorsque nous faisons quelque chose, eh bien que nous le fassions pour sa gloire. Alléluia. Lorsque nous devons nous rendre utiles, eh bien, regardons d'abord aux motivations de nos cœurs. Est-ce que nous le faisons pour être vus? Ou alors nous le faisons simplement parce que nous aimons le Seigneur? Et par conséquent, nous aimons les âmes pour lesquelles il est mort. Et ceux qui bâtissent avec des matériaux de qualité médiocre sont ceux qui bâtissent avec des motivations impures. Voyez-vous, c'est comme ça que certaines œuvres ont fini par disparaître. Parce qu'au départ, la motivation était bonne. Mais avec le temps, je vous ai déjà dit, un mercenaire, dans la plupart des cas, dans l'œuvre de Dieu, au départ, a toujours été un bon berger. Mais qui, avec le temps, s'il ne fait pas très attention, se transforme en mercenaire. Et un mercenaire fait un travail pour un salaire. Il ne le fait pas de manière désintéressée. Il le fait d'abord parce qu'il doit recevoir en retour quelque chose. Voyez? Donc, ceux qui cherchent leur gloire, ceux qui ont des motivations égoïstes, ceux qui sont intéressés, ceux qui sont infidèles envers le Seigneur, tout cela travaille avec des matériaux, eh bien, non résistants et incapables de résister à l'épreuve du feu. Et en ce jour-là, eh bien, ce que nos motivations se révéleront, et si c'était des motivations impures, nous perdrons tout. Et nous atterrirons au ciel sans rien, avec une mallette vide. Parce qu'après le feu, tout sera consumé. Et enfin, ceux qui détruisent, comme nous l'avons vu avec l'esprit de Jézabel, ce sont ceux qui, au lieu de travailler pour le Seigneur, eh bien, travaillent sous l'influence du monde et des puissances des ténèbres pour répandre des fausses doctrines, amener les gens à s'appuyer sur eux, sur des anges, ou sur d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Cela travaille à la déconstruction de l'Église. Avec le séminaire Jézabel, on nous a remis quelques livres terribles, des témoignages de Jésus en dehors de la Bible, qui sont des livres mystiques et ésotériques. Il y en a qui les ont remis, voyez. Ceux qui répandent ce genre de choses sont en train, mes amis, de travailler à la déconstruction de l'Église, c'est-à-dire prendre les gens, les séduire et les entraîner dans une autre direction. Nous n'avons pas d'un autre témoignage sur Jésus en dehors de celui que les apôtres nous ont laissé. Si quelqu'un vient avec un livre en disant, oui, c'est une révélation de plus, dites-lui, mais une révélation de plus, pourquoi? C'est comme si tu me proposais une petite lampe tempête alors que le soleil est là. Qu'est-ce que je veux faire de ça? Dites-moi. Non? Alors faites attention, mes amis. Ça vient toujours de manière sournoise et subtile. Et comme les gens cherchent la connaissance par tout le prix, les mystères, alors l'ennemi vient, il vous propose toutes sortes de choses. Que Dieu nous aide à être de bons bâtisseurs, qui utilisent de bons matériaux, c'est-à-dire qui posent des actes avec des motivations justes, louables, bonnes, mais aussi qui travaillent pour la gloire du Seigneur. Si nous travaillons de cette manière, eh bien, nous pouvons avancer la tête haute en sachant que tout ce que nous faisons est comme un investissement dans la banque céleste. Et en ce jour-là, le Seigneur nous récompensera. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Seigneur, nous qui t'avons rencontré un jour, nous avons le devoir de travailler, de bâtir sur toi le seul fondement. Mais tu vois combien, Seigneur, il nous est arrivé de bâtir non seulement sur notre propre vie ou dans notre propre vie, mais aussi de bâtir ton Église avec des matériaux de qualité médiocre, Seigneur, avec du foin, avec de la paille, avec du bois. Ô Seigneur, s'il nous est arrivé d'agir ainsi avec des motivations impures, s'il te plaît, pardonne-nous. Que désormais, ô Dieu, nous puissions veiller à la nature, Seigneur, de notre motivation, que nous cherchions toujours et en toutes circonstances ta seule gloire. Aide-nous à être de bons bâtisseurs, des hommes et des femmes actifs sur ton chantier et utilisant des matériaux que toi tu mets à notre disposition, des matériaux que nous trouvons dans ta parole, des matériaux, Dieu, qui vont purifier, sanctifier notre cœur, Seigneur, et ainsi nous amener à agir avec des bonnes motivations, à avoir des motifs louables derrière toutes nos actions, derrière nos différentes activités. Oh, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à agir de cette manière et à demeurer dans cette vision de l'excellence, oh Dieu, au niveau de la construction de ta maison qu'est l'Église, à veiller sur nous, chacun de nous, car le moi est très subtil. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci, Maître. Nous voulons aussi, Seigneur, te recommander par la même occasion, alors que nous avons nos têtes inclinées devant toi, ce service des offrandes et des dîmes, que là aussi, Seigneur, nous le fassions pour toi et pour toi seul, car nous te sommes reconnaissants, car nous savons que tout ce que nous sommes, c'est à toi que nous le devons. Et en retour, nous te partageons notre joie. En retour, nous te donnons, Seigneur, ce que nous t'avons préparé, afin que cela puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre et à la manifestation de ta gloire dans ta maison et sur cette terre. Te le demandons au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse.